et Pierre Ducrot et Daniel Riolo. Et deux de nos drôles de dames nous ont rejoint, Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, bonsoir.
David Lortolari également est avec nous.
Allô, point 2, salut à tous.
Ça va les mecs?
Salut messieurs.
On essaye.
Ouais. Alors ils étaient là hein, dans le backstage en train de suivre ce débat sur les entraîneurs de Ligue 1. Ouais. Je te voyais, toi t'étais là, tu bouillais là.
Bah, j'étais 100% d'accord avec Daniel, j'avais envie de rentrer plutôt, l'applaudir.
Lécheur, va de hein. Ça m'étonne pas de toi, tu sais quoi, tu vas au plus simple, tu vas au plus facile, de manière.
Non.
Mais si.
L'analyse était profonde, les mains.
Bah, y a autre chose qui est profond avec toi.
Mon cœur blessé quand je pense à certaines choses.
Tu le dis en riant, mais je suis sûr que c'est vrai, hein, en plus.
Et toi, t'étais d'accord avec qui, David?
Ah ben moi j'étais concentré sur ton nœud papillon d'abord, ouais, pour commencer. Et après, non, moi je veux parler de la Bundesliga, le reste.
Voilà, le mec se mouille jamais quoi. Tiens les gars, on va faire une petite minute portugaise qui va vraiment durer une minute d'ailleurs.
Ah oui d'accord, ah, bon, ah, okay. Ah, ouais. On peut revenir après.
Salut les copains, salut les copines.
Je m'appelle Monsieur José de Silva.
Que je disais que c'était le bordel, là c'est pire, là c'est la merde.
Bidou, je t'aime, ciao.
Oui, va te faire.
Non, j'adore. Alors tiens, la minute portugaise aujourd'hui, elle concerne les affaires du foot portugais. Alors c'est vrai qu'on est en plein Football League. Au Portugal, ça fait des mois, voire des années d'ailleurs, qu'il y a pas mal d'affaires qui traînent et qui polluent finalement la vie, le quotidien des clubs portugais, notamment les gros clubs. La une aujourd'hui de la presse portugaise, et pas que de la presse sportive, c'est l'ancien président du Sporting, Bruno de Carvalho, qui a été détenu hier, mis en détention pour Bruno de Carvalho. C'est le parquet qui a informé que Bruno de Carvalho a été détenu dans le cadre de l'enquête qui est liée aux agressions des joueurs du Sporting au centre d'entraînement, vous savez, en Medellín.
Oui. Oui,
ils avaient été agressés. Alors suite à ça, lui, il a été destitué de son poste de président. Lui et l'un des responsables des groupes de supporters du Sporting ont donc été détenus. Il faut savoir que cette affaire traîne déjà depuis de nombreux mois. Vous ajoutez à ça l'affaire des emails du Benfica. On en parlait un petit peu hier de ce fameux fonctionnement. Voilà, la boîte mail du Benfica qui a été hackée. Il y a pas mal de mails qui traînent sur Internet et il y a des échanges assez tendancieux. Alors pour l'instant, c'est supposé. Hein. Il y a pas l'affaire est en cours également. Le président du FC Porto, Pinto da Costa, et des dirigeants du club qui ont été mis en examen cette semaine pour diffamation à l'encontre du Benfica. Je sais qu'il y a pas mal de médias français qui ont dit que c'était pour piratage informatique. Il y a seulement un dirigeant de Porto qui a été mis en cause pour piratage informatique pour cette histoire de hackage. Le président de Porto, lui, il a été mis en examen pour diffamation. Et puis Football Leaks, là, pour le coup, c'est Jorge Mendes qui prend pas mal également ces derniers jours, parce qu'il y a des affaires de possible évasion fiscale également concernant son business à Jorge Mendes. C'est vrai que la réalité du football portugais, c'est aussi ça. Il y a énormément d'affaires qui font la une des quotidiens au Portugal ces derniers jours également. Voilà, je voulais aussi en parler.
Le Portugal, la Belgique, tout va bien.
Bah, c'est des pays où il y avait pas mal de... Ouais, c'est les spécialistes, enfin les précurseurs des montages financiers.
Bah, donc, c'est bien que ça pète ces trucs-là.
Ouais. Faut que ce soit prouvé aussi, c'est toujours la même chose.
Ouais, enfin.
Bon. Faut que ce soit condamné, quoi.
Oui, oui.
Bah, de toute façon, pour que ce soit condamné, faut que ce soit prouvé. On va passer à l'Allemagne, mon Lorto.
Eh oui, parce qu'il y en a tellement de choses à dire. Bah, ça se bouscule. Attends.
Quel week-end.
Jingle.
Quel match.
Faisons les choses dans l'ordre à l'allemande, mon Lorto.
Alors là,
pour rester dans le cliché, jingle.
Cinquième, les Chinois, 50 points 100. La France est donc médaillée d'argent de cette finale, messieurs, et trampoline synchronisée. Très bonne nouvelle pour le moral de la gym française.
C'est exceptionnel.
C'est pas un montage.
Oui.
Commenter du trampoline synchronisé.
Nous avons les droits sur nos antennes des championnats du monde de toutes les disciplines de la Fédération internationale de gym, dont la semaine dernière les championnats du monde de trampoline, tumbling et double mini trampoline, qui est une discipline qui n'est pas pratiquée en France.
Il veut pas parler de la Ligue 1, mais il se fait du trampoline.
Et oui.
Alors il y avait de très très belles affiches en Bundesliga. Ouais. C'est pour ça qu'on commence par toi. 11e journée de bouli. Dortmund a tapé le Bayern 3-2. Gladbach s'est imposé à Brême face au Werder 3-1. 3-0 pour le RB Leipzig face à Leverkusen aussi. Et l'Eintracht a battu Schalke 04 3-0.
Ouais.
Et toi, t'as envie de porter un coup de cœur, et il concerne l'Eintracht qui est en de Marseille en Ligue Europa d'ailleurs.
Oui, je veux bien. Ça sera une forme d'avis tranché ce soir. Je veux bien dire un mot d'entrée sur ce club de l'Eintracht Francfort. Pourquoi? Parce qu'à l'intersaison, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur nos différents plateaux et dans nos différentes émissions, à l'intersaison, les supporters de l'Eintracht étaient très inquiets, pensaient que la descente était possible cette saison parce que l'équipe s'était beaucoup affaiblie entre la saison dernière et la victoire en coupe avec Niko Kovac contre le Bayern en finale, et cette saison avec des départs, avec beaucoup d'incertitudes et avec notamment cet entraîneur qui les avait emmenés au sommet et donc à ce titre en coupe, qui partait vers le Bayern. Grosse inquiétude donc. Or, aujourd'hui, l'Eintracht est devant le Bayern au classement. Ils ont bondi à la 4e place et c'est un grand coup de cœur parce que Sébastien Haller, déjà, pour commencer,
et Jovic
en attaque, Jovic incroyable, deux des meilleurs buteurs de ce championnat, parce que il y a un petit parfum français aussi dans ce club de l'Eintracht Francfort. Sébastien Haller étant le plus illustre de ces joueurs-là, parce que l'entraîneur Adi Hütter, qui avait eu du succès précédemment, je crois que, alors est-ce que c'était à Young Boys Bern, mais en tout cas il venait d'un des clubs du monde germanique, on va dire. Il est arrivé en Allemagne sans certitude. Il a eu beaucoup de difficultés au départ, beaucoup de matchs sans victoire, beaucoup de défaites. On le voyait désemparé et on se disait, est-ce que les dirigeants de Francfort vont être patients avec ce gars-là? Ils l'ont été. Ils ont eu raison. Parce qu'aujourd'hui, Francfort déroule en Ligue Europa, c'est le groupe de Marseille, on le sait, ils ont dominé la Lazio, ils ont dominé l'OM aussi, et ils sont devant, et ils sont déjà qualifiés, ce qui est complètement dingue après seulement 4 journées pour
Hütter,
être comme ça.
Hütter, il a fait 3 ans Young Boys avant. Ouais.
3 ans Young Boys, c'est ouais. Ça. Il a mené d'ailleurs le club au titre.
Il était à Salzbourg avant, au Red Bull Salzbourg.
Ouais. Et il a eu du succès dans ces pays-là, mais on se demandait si en Allemagne ça pouvait prendre. Et au début, c'était pas du tout ça. Et finalement, avec le temps qu'on lui a donné, ça a fini par marcher. Il déroule en Europa League. Il y a une euphorie, une vraie euphorie avec dans le public de Francfort. D'ailleurs, on parle à Dortmund du mur jaune, mais il y a un mur gris à Francfort parce qu'il y a aussi des vrais bons ultras dans ce club. Et ça marche bien aussi en championnat, avec une équipe qui a trouvé ses marques, une équipe qui propose un football extrêmement offensif. Tu as cité les deux joueurs essentiels, évidemment Jovic, qui est un prodige là-bas et ça tourne très fort pour lui. Et ce week-end, la preuve encore, ils ont pulvérisé Schalke 3-0 hier, avec un Haller qui marche sur l'eau, qui est, me semble-t-il, appelé en équipe de France. Ah non, c'est Pléa. Pléa ou Haller?
Oh là là. Parce que ça, tu militais pour Haller il y a pas longtemps.
Oui, mais les
belles récompenses aussi pour Pléa.
Ouais, oui,
mais dans le même temps, t'as raison de nous parler d'Eintracht et de ce que fait, mais dans le même temps, il se trouve qu'avec la barre, l'autre, il met un triplé, qu'il s'est super bien acclimaté, qu'il est ravi d'être en Bundesliga, qu'il a dit à quel point découvrir un club de cette importance.
Il a les mêmes stats qu'Haller, hein, d'ailleurs.
Ouais, 8-11 matchs. Et ce qui est intéressant pour le futur, c'est que c'est deux profils complètement différents.
Complètement différents. Effectivement, un Pléa, ce serait mon cador, mais on peut en parler tout de suite. Il est beaucoup plus complet, me semble-t-il, dans le profil de l'attaquant, pied gauche, pied droit, vitesse. Haller est peut-être un attaquant un peu plus traditionnel, peut-être un peu moins adroit, mais avec la confiance qu'il a acquis ces dernières semaines, ça devient un attaquant vraiment intéressant que j'aimerais, moi, voir confronté au niveau de l'équipe de France.
On en est qu'à 11 matchs en Bundesliga, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais est-ce que t'as pas envie de croire que ça va être la meilleure Bundesliga depuis un paquet d'années?
Ouais, parce que...
Ça se dit en Allemagne et...
Ça se dit, et surtout...
Pas simplement parce que le Bayern n'est que cinquième, mais forcément le fait que ce soit à ce point disputé.
Et aussi par rapport aux résultats médiocres de la saison dernière en Coupe d'Europe, où les clubs allemands étaient quand même en bas de la vague, au fond du trou.
Oui, c'est vrai que l'année dernière, Sophie.
Alors attends, juste pour revenir, il y en a 7 qui peuvent encore se qualifier. Hein.
Juste pour revenir sur l'Eintracht, parce que c'est vrai que c'est quand même une curiosité. Je regardais là, ils ont 60 millions de budget, ce qui est quand même pas énorme, notamment comparé aux autres clubs du Bundesliga.
Ouais.
Comment t'expliques toi ce succès justement? Ils ont remporté la Coupe d'Allemagne la saison dernière. Kovac est pourtant barré. Enfin, c'est énorme ce qu'ils font.
Bah, c'est ce que je me disais, c'est ce que les supporters se disaient. Comment on va réussir à assumer la transition avec?
Tu veux dire que c'est possible de perdre des joueurs en entraîneur et que ça aille bien l'année d'après? Non, chez nous, c'est toujours un drame. Tout à l'heure, on parlera du Bétis, mais le Bétis a perdu des joueurs très importants. Ils ont récupéré de l'argent, ils l'ont dépensé. Chez nous, quand tu perds les joueurs, que tu les vends,
alors, ils ont dépensé.
On se demande tout le temps où est l'argent.
Ils sont gardés.
Comment ça, il n'y avait plus d'argent?
Ils sont fait un petit match là, le Bétis, non? Il y en a tout à l'heure, mais ils ont le budget historique de leur histoire. Mais ils en ont gardé un peu.
Ils ont vendu des joueurs.
Oui, c'est ce que je te dis.
Ça arrive chez nous de perdre des mecs. Ils ont perdu le mec qui est allé à Naples, là, et de moi, là, Fabien Ruiz. Tu perds un mec comme de cette importance dans un club en Ligue 1, tu te remets pas. Tu mets 4 ans à t'en remettre. 4 ans à t'en remettre.
Il y a un vrai boulot de scouting.
Chez nous, on perd, mais il y a pas l'argent qui revient.
Alors tu sais quoi, tu vas nous le dire
juste
dans quelques instants. Tu sais qu'il y a Elena Costa qui est scout, vous savez, celle qui devait être entraîneur de Clermont il y a quelques années. Mm-hmm. Elle est scout pour l'Eintracht.
Oh dis donc, oui, qu'est-ce qu'elle devient elle?
Alors elle est consultante au Portugal Télé. Il y a les scouts, elle était au Celtic, elle bosse pour l'Eintracht depuis 2 ans maintenant.
Et qu'est-ce qu'elle devient alors sinon?
Jovic, c'est elle qui l'aura conseillé puisqu'il est au Benfica d'ailleurs. Il est prêté par.
Scout, c'est des gens qui cherchent des jeux, c'est pas scout.
Elle est scout toujours d'ailleurs, sache-le. Dans quelques instants, l'after se poursuit avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, avec David Lortolari, avec Simon Rivera, avec vous également au 32-16. Bien entendu, à tout de suite. Et on reviendra bien sûr sur le carton de Dortmund face au Bayern, juste après ça. Toujours accompagné de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot, David Lortolari, Simone Rovera sont là également. Et Fred Hermel nous a rejoint. Bonsoir mon Fredo.
Hola chicos.
Ça va Fredo?
Salut Fred.
Ah, très bien et vous?
Ah bah toi t'as passé un bon week-end mon pote. T'as passé une journée de Liga toi.
Est-ce que le Bétis est un petit club de province? Avec 280 millions de budget.
Et avec combien 50 000 socios. C'est un club, c'est pas l'une des grosses écuries, mais c'est un beau petit club, quoi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est moi. De toute façon, tout ce qui s'est passé, le but de Godin. Enfin, on va raconter tout ça. Mais je me souviens pas d'avoir passé une journée de Liga aussi intense, avec autant d'émotions, autant de rebondissements et autant de football absolument génial. Voilà.
Joli teasing. On finit avec l'Allemagne, mon Lorto. Faut parler quand même de ce choc, la victoire de Dortmund face au Bayern. Mais 3-2. Oui. Et Dortmund qui compte 7 points d'avance sur le Bayern maintenant. Dortmund, qui est l'une des meilleures attaques d'Europe, hein, depuis le début de la saison.
Ouais, ils ont déroulé conformément à la dynamique depuis le début de saison. Je me demandais, moi, si ça allait pas fléchir un peu. Et sur ce match-là, ils ont fait le dos rond en première période.
Ça, c'est un match déclic, hein, pour eux.
Oui,
parce qu'ils sont menés, et quand ils étaient menés, Je me suis dit, ah, fou, t'as l'impression c'est le puissant qui remet la main sur l'autre. Tu fais, bon, c'est bon, on va se calmer là après ton début de saison et tout. Et pas du tout.
Ça a été un peu ça pendant, allez, 45 minutes, presque une heure. Sauf que, il y en a un qui est transfiguré, il n'est plus blessé, il a le brassard de capitaine, c'est l'attaquant Marco Reus qui est dans la forme de sa vie. Mieux, Marco Reus a égalisé une première fois, il a égalisé une deuxième fois, il est évidemment convoqué en équipe d'Allemagne pour les matchs de jeudi contre la Russie et dimanche, ou samedi ou dimanche contre les Pays-Bas, match très important. Oui, Dortmund, c'est incroyable. Alors, en deuxième période, on s'est demandé, je veux pas trop insister là-dessus parce que c'est pas les anciens contre les modernes, c'est pas les jeunes contre les vieux, mais on s'est demandé en deuxième période si la jeunesse du Borussia, avec les remplacements en plus que peut faire l'entraîneur Favre, parce qu'il a sur le banc énormément de monde.
Évidemment que t'es obligé de le dire et de te le demander. T'as l'équipe vieillissante du Bayern avec les vieilles gloires et contre la jeunesse. Évidemment que t'es obligé de faire ça.
C'est un peu philosophique comme position. Oui, mais
t'es obligé là.
Mais c'est plus compliqué que ça. T'as un Hummels par exemple qui était pas lucide parce qu'il a joué en étant malade et finalement il a été sorti en début de deuxième période. On a laissé exprimer sa frustration dans le vestiaire du Bayern après le match. Lui en particulier, Ribéry aussi qui. Plus tard,
oui, ça, on va en
ça c'est une scène dont on va parler.
Tu nous expliques ce qui s'est passé.
Énervé. Le Bayern, l'entraîneur du Bayern, Kovac, après le match, était plutôt rassuré. Je pense que quelque part, paradoxalement, il a été renforcé par cette courte défaite. Parce que, d'une part, ça pouvait faire 3-3. Il y a Lewandowski qui égalise à la fin.
Ils sont en défaite. Il a bien
c'est
changé ce club.
Non, mais c'est que on a vu le meilleur Bayern depuis longtemps.
Presque peur de prendre une rouge. Direct, t'es le coach du Bayern, David.
Non, mais on a vu le meilleur Bayern depuis longtemps. Ils ont fait encore beaucoup de bêtises. Il y a eu encore beaucoup de déchets offensivement.
Tu parles du Real.
Là, tu me touches, là.
il te faut encore beaucoup travailler.
Oh, merde, là, je suis déstabilisé, là.
Tu sais, David, il faut plus d'années encore.
Je suis déstabilisé.
Confrontation avec Daniel Riolo, tu sais. Je pense qu'il, et d'ailleurs, il va passer un mauvais quart d'heure tout à l'heure quand je vais lui raconter le but que j'ai vu. Enfin, je vais pas trop teaser.
Non mais tu disais le factuel, Nico, c'est qu'il y a 7 points d'avance pour Dortmund aujourd'hui à l'heure où on parle sur le Bayern. Sauf que c'est quand même en trompe-l'œil en partie. Il y avait quand même des joueurs du Bayern aussi qui n'étaient pas là, des joueurs très importants, les jeunes, comme Tolisso qui sont blessés, Arthur Vidal, j'allais dire, il est parti. Thiago Alcantara qui est le meilleur joueur du Bayern cette saison qui est blessé aussi. Le Bayern n'était pas non plus à son meilleur, mais ils ont montré un meilleur visage et je pense que ça va rassurer une partie des supporters.
David, raconte-nous cette histoire, cette embrouille, cette altercation entre Ribéry et Guillou.
Match à 18h30, ça se termine donc à 20h20. Une heure plus tard.
Donc le match est commenté par Guillou et Sabatier.
Sur une chaîne sur française.
Non, bon, on va dire.
C'était sur Bein 2.
À quelle heure?
Dans mon souvenir, je ne sais plus si c'est Jean-Charles.
30 au Portugal.
Dans mon souvenir, je sais plus si c'est Jean-Charles ou Patrick, mais il y en a un des deux qui dit pendant le match, alors que le Bayern a encaissé deux buts, que ça vient, les deux buts sont venus du côté de Franck Ribéry, sont venus par ce côté-là. Apparemment, l'épouse de Franck.
Donc une analyse sportive, quoi.
Oui, il y a pas d'agression en direction d'un joueur, même si
qu'elle soit juste ou pas, peu importe.
Même s'il peut se sentir visé. Apparemment, l'épouse de Franck Wayban devait écouter le match et les commentaires de ces messieurs. Ça ne lui a pas plu. Elle a transmis l'information à Franck Ribéry. Franck était très frustré après le match, comme la plupart des joueurs du Bayern. Et visiblement, cette frustration s'est exprimée bien après le coup de sifflet final, au moment où le Bayern allait repartir vers son quart et allait repartir vers Munich. Franck prend à part Patrick Guillou, qui est un ancien joueur, qui a joué notamment à Saint-Etienne, qui est un homme qui a un certain gabarit par ailleurs. Lui colle deux ou trois gifles et les deux hommes sont écartés. par des gens qui étaient témoins de la scène apparemment, pour que ça en reste là. Le Bayern confirme l'information par l'intermédiaire de son directeur sportif, Hasan Salihamidžić, qui explique aussi que au milieu de semaine, ce sera mercredi ou jeudi, les deux parties seront convoquées, enfin convoquées, le mot est trop fort, mais seront invitées à être réunies à Munich pour régler ce différend.
Voilà, donc visiblement il va y avoir une rencontre entre les deux hommes.
Ça, ils vont trouver une sorte d'arrangement entre les deux parties.
Oui, je
pour
pense.
Que ça fasse pas trop de vagues, et le Bayern va tâcher
ils vont demander à Ribéry de laisser
ce dont ça témoigne très vite, Nicolas, c'est après le précédent où Lisa Müller, la femme de Thomas, avait tweeté, enfin avait écrit un message en critiquant son entraîneur à demi-mot en disant Thomas Müller ne joue qu'à partir de la 71e minute. Là, il y a à nouveau ce problème là, ça témoigne quand même.
Les femmes,
non, mais la femme de Ribéry communique avec son mari. C'est quand même différent. Elle fait rien de mal. Elle dit ce qu'elle veut avec son mari. C'est lui qui réagit mal.
Ce que je veux dire, c'est que ces deux scènes-là, témoignent d'un manque de sérénité au Bayern. Et on est cinquième et c'était pas arrivé depuis l'automne 2010.
Voilà. Das Kador, on en a parlé. Le Kador du week-end, c'est à la Sainte Pléa.
Oui.
Alors Das Bidon.
Le Cador, c'est à la Sainte Pléa parce qu'il a fait la totale. Pied gauche, pied droit, enfin bref, je l'ai déjà dit. Le bidon, moi j'en ai marre là de Tedesco avec Schalke. Ah. Il avait fait du défensif l'an dernier.
Putain, mais en Coupe d'Europe, ça marche bien. Et
ça va.
C'est dingue.
Aussi,
hein.
Parce qu'ils sont dans le groupe de Porto et c'est pas non plus un groupe de fous.
Non mais c'est vrai, c'était Galatasaray Porto.
C'est vrai.
T'as raison, c'est pas un groupe très compliqué, mais n'empêche.
Et ça joue pas bien, Daniel. Franchement, moi j'ai vu le match.
Aller en huitième.
Oui.
Je veux dire, en même temps, excuse-moi, Lyon aussi est dans un groupe pas compliqué.
Oui.
Comme City, quoi, tu vois.
Ouais.
Enfin, fait les deux autres, c'est quand même à la portée, quoi.
Au final, c'est Shakhtar Donetsk.
Ouais.
Qui joue pas
Shakhtar, c'est chiant.
Et là, c'est quoi, Porto Galatasaray
et Schalke 04 et Lokomotiv Moscou.
Bon, c'est vrai que c'est un groupe facile, mais il n'empêche que c'est la Ligue des Champions qui sont 14e de Bouilly et qui vont quand même aller en 8e.
Mais
en championnat, ça marche pas du tout.
Oui, Tedesco me déçoit, je voulais pointer ça parce que l'an dernier, il a réussi, ce jeune entraîneur, en faisant un système défensif. Ils sont 2e et dauphin du Bayern à la fin de la saison. Cette saison, le match l'a perdu contre Francfort. Il nous présente une équipe encore que j'ai trouvé peu courageuse, peu inventive, peu créative, alors qu'il a des armes, et notamment Brelem Bolo qui malheureusement s'est blessé, le Suisse, au pied.
Ah bah en plus gravement, visiblement.
Oui, fracture du pied.
Ouais, du métatarse, je crois.
Mais c'est tombé aujourd'hui. On voudrait plus de cette grosse écurie, on voudrait plus de ce budget important, on voudrait plus de cette place forte du foot allemand, et là ils sont décevants cette saison en championnat. Et pour moi, c'est un échec en tout cas cette saison.
Dankeschön, David. On enchaîne.
Et pas pire, Bitte.
Jingle Rovera, Jingolo.
Chiellini que j'adore, que je lui donnerai les clés de la maison, les yeux fermés, la poussette avec ma petite, j'ai totale confiance à Giorgio Chiellini dans le terrain et dehors le terrain.
12e journée de Serie A, et là aussi, il y avait de fiche sympa hier soir.
Le jingle Alexis Sanchez me manque, hein. Je voudrais dire quand même celui-là.
On le ressortira. Victoire de la Juve 2-0 à Milan. Le Napoli perdait 1-0 face au Genoa et finalement ils sont imposés 2-1 les Napolitains. L'Atalanta a tapé l'Inter 4-1.
Très fort là.
Voilà. La Roma a tapé la Samp 4-1 et un partout entre Sassuolo et la Lazio. La Juve qui compte 6 points d'avance sur le Napoli au classement, qui compte 3 points d'avance sur l'Inter, qui compte 3 points d'avance sur la Lazio. Hier il y avait donc ce choc Milan Juve. Higuaín a raté un péno, il a pris un carton rouge. Et alors là mon Fredo, Simone se tourne vers toi. Et là, toi, tu peux plus prendre sa défense, Higuaín. Vous êtes souvent pris la tête dans l'after. Toi, tu le défendais. Simone, là, tu peux plus, là. Qu'est pas ça?
Là, il est un peu au bout, là, quand même, hein.
Moi, j'ai toujours vu les côtés bons des choses, les côtés bons de Gonzalo Higuaín, l'esprit des revanches, l'effet qu'à Naples, il avait commencé un peu à remonter l'échelle vers les sommets du foot européen, après cette déception d'être vendu par le Real Madrid. Son arrivée à la Juve, ça semblait être l'effet de le revoir.
Il a été bon avec avec la Juve, ils sont allés en finale de la Ligue des Champions avec Higuaín quand même.
En finale de la Ligue des Champions.
Avec
mais c'est vrai.
Finale horrible.
Qui est en finale de la Ligue des Champions. Qui fait pas grand chose.
Ok, mais ils étaient moins forts. Donc voilà. Mais ils vont quand même en finale, c'est bien.
C'est vrai qu'il lui était quand même important en Serie A, dans les matchs importants en Serie A.
Ouais.
Mais la chose marchait aussi parce que il avait à côté, une équipe forte et il avait plus d'esprit de revanche. Il avait réussi son
mais là,
pari.
De toute façon, ça a été une claque pour lui, le fait que la Juve ait en gros le pouce dehors, qu'il soit retrouve à Milan.
Lui, c'est
un club quand même qui
dans une situation d'être mis à la porte
bah
une deuxième fois.
Bah oui.
Encore une fois, même c'est la liaison le moins directe, mais au Real Madrid, il y avait déjà Cristiano qui était flamboyant. Donc, merci, au revoir, Gonzalo. À la Juve, c'est même pire. On a besoin de vendre quelqu'un pour prendre Cristiano. Merci, au revoir, Gonzalo.
Bah oui.
Donc, il a vécu très mal cette chose.
Non, c'est il l'a dit d'ailleurs. Il s'est exprimé là-dessus il y a quelques semaines.
Oui, il a fait comprendre que lui, il voulait pas partir, qu'il s'est retrouvé mis vraiment dans une situation de on n'a plus besoin de toi.
Et la chose, ils l'ont poussé dehors d'ailleurs. Il était en fin de contrat. Comment s'était passé? On sait ça.
Non, ils ont.
Avec une couette.
Le contrat, c'est toi, Nico. C'est
comment et, ils lui ont dit tu joueras beaucoup moins parce qu'on va recruter un.
Ils ont dit.
Ouais, un bon petit joueur.
Bah non, mais s'ils lui disent tout simplement tu joueras pas, il y a Ronaldo qui arrive. Ah, il a déjà vécu ça à Madrid, le mec.
Non, ouais, mais attendez, à Madrid, s'il vous plaît, il y a quand même le papa, Jorge Higuaín, qui depuis un an et demi allait taper au club, notamment au Paris Saint-Germain. Je vous raconte une anecdote vite fait, si tu me permets, Simonet. C'est que Mourinho reçoit un coup de fil de Leonardo, à l'époque directeur sportif du PSG, en disant écoute José, alors tu veux te débarrasser de d'Higuaín? Il dit bah non, pourquoi? Parce que son père sort de mon bureau en disant qu'il veut partir, qu'il est libre, que tu en veux plus, etc. Donc le père avait aussi proposé le joueur à plusieurs gros clubs en espérant une grosse augmentation. Donc le Real l'a envoyé balader, mais aussi parce qu'il l'a cherché, quoi.
D'accord.
Je ferme la parenthèse.
L'histoire pour revenir au terrain, c'est que là c'est il y a un scénario où Milan, avec beaucoup de blessés, un Milan inférieur à la Juve, un Milan qui avait besoin d'un gros résultat face au Bianconeri pour marquer les esprits, pour chercher de revenir là aussi à niveau d'image, à niveau de résultats au sommet de ce championnat, pour rester dans la lutte pour la Ligue des Champions, a besoin de Higuaín. Et Higuaín rate tout ce qu'il peut rater, c'est-à-dire déjà il rate les pénaltys.
Alors attends, il a une stat qui est lunaire en Serie A. Il a raté 6 pénaltys sur 18. Mais c'est incroyable.
Oui, mais les stats sont pire. Il est à 9 sur 31 si on considère même les pénaltys des
séances
de tir au but.
Ouais.
Non, des séances de tir au but.
D'accord.
C'est 8 sur 27 total.
Il a
marqué 2 pénaltys sur 4 tirés avec la Juve. Il a raté 4 sur 13 avec Napoli. Donc c'est vraiment ça la stat. 1 sur 3, il rate. Mais la situation est encore pire. Et pour ça, je peux pas défendre Higuaín. Parce que dans l'intérêt de son équipe, lui ne devait pas tirer les pénaltys. C'est pas lui le tireur numéro 1. C'est Franchesi qui avait pris les ballons, qui devait frapper. Lui avait cet esprit de revanche. Il a même pas été lucide de comprendre que Chesney l'a dit après les matchs.
Je savais où il allait tirer, ouais.
Moi, je me suis entraîné, je sais la façon dont il frappe. Et Cristiano s'est rapproché de Chesney, a dit, jette-toi en avant parce que lui, il frappe comme ça. Donc, même Cristiano a aidé, on peut dire, Chesney. Et Chesney, simplement, s'est jeté avec quelques secondes d'avance en sachant généralement où va tirer Higuaín, et il a arrêté. Donc il n'était pas lucide dans son choix de frapper les pénaltys, il n'était pas lucide dans l'histoire du carton rouge où il y a cette situation jugée par l'arbitre avec une faute d'Higuaín sur Benatia, un carton jaune qui suit derrière, et là il pète totalement les plombes.
C'est vrai qu'il était vraiment, alors on a vu les images, hein, on était en direct pendant le match PSG Monaco, et d'ailleurs c'était plus intéressant pour le coup.
Il a complètement
pété un câble.
Il y avait plusieurs envie de revanche
à côté de lui qui cherchait de le tenir. Il y a même Cristiano qui allait lui parler à dire reste tranquille. Et à la fin du match, Cristiano a même parlé au micro de Sky en disant j'ai dit à Higuaín de rester tranquille, qu'il risquait en lourde sanction, qui maintenant c'était fait, les cartons rouges étaient sortis, donc c'est tranquille. Donc les adversaires, ses anciens coéquipiers sont allés chercher de tranquilliser, et après il sort en larmes. On a vu pratiquement comme les 5 étapes du deuil, les dénis pour les cartons rouges, l'acceptation, les larmes,
c'est beau, ça.
La dépression, c'était vraiment une Higuaín au pire de tous ces états, dans les moments où Naples, parce qu'il avait vécu ça même avec Naples sur un carton rouge face à l'Udinese. Donc chaque fois qu'il doit être l'héros de la situation, il devient l'anti-héros, on peut dire. C'est pour ça que j'arrive pas à le défendre. Même si je trouve qu'il est un garçon qui se bat, un garçon magnifique, un joueur extraordinaire. Hier, il devait faire un pas en arrière.
Non, mais il a un profil.
Non, mais
il
après,
a un profil.
Si son père demande plus d'argent,
oui,
etc.
Non, mais
lui, sur le terrain, est souvent irréprochable à niveau d'état d'esprit.
Non, mais quand t'as été avant-centre au Real, de toute façon, dans l'histoire, à part Di Stéfano, il y a très longtemps, t'es une chèvre. Même Raoul, c'est une chèvre. À partir du moment où Benzema est arrivé, même Raoul est passé.
Même Boutragueño, c'est rien.
Boutragueño, c'est rien.
Raoul, non,
c'est que dalle de chez que dalle. Non, mais frère, on va pas débattre de ça, parce que j'ai encore une question avec Simonet, donc on va te laisser avec ton idolâtrie.
C'est que Benzema a un ratio but, minute disputée.
Oui, Benzema est meilleur que Raoul Boutragueño dans l'histoire du Real. C'est bien, c'est bien. Ok. Y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Mais, Higuain, il a un profil.
Ah, c'est vrai que si tu le cherches, faut qu'il te réponde, hein.
Bah oui, mais il cherche, on a
mais y a pas besoin de chercher. J'ai dit que j'admettais.
Ah, Daniel, t'es en train de le provoquer, laisse le te répondre.
Mais parce que je connais sa réponse.
Bah oui, laisse le te répondre.
Mais alors, pose pas la question.
On le sait. Il est même meilleur qu'Hugo Sanchez.
Il a jamais dit ça.
Bah, tu lui poses la question, il pose lui. Benzema meilleur qu'Hugo Sanchez, oui ou non?
Pose-lui, toi, t'as le micro devant toi. T'as le micro devant toi, demande-lui. T'es journaliste, non?
Je connais sa réponse.
Bon, bah voilà.
Mais pose la question, vas-y, pose la question.
Pose-lui la question.
Benzema est meilleur, dans l'histoire du Real qu'Hugo Sanchez, Boutragueño et Raoul.
Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Benzema a marqué moins de buts que Raoul. Mais Benzema a un
ratio. Non, je te parle dans l'histoire du club.
Benzema est 7e meilleur buteur de l'histoire.
Et je te demande, est-ce que, pour un socio du Real, est-ce que pour un socio du Real, il restera plus grand qu'Hugo Sanchez, Boutragueño ou Raoul?
Ça dépend lequel.
Il doit avoir une grande place pour les socios, quand même.
C'est quoi?
C'est pas le porte-parole des socios du Real.
Non, mais je demande son avis.
Alors vas-y, Fred, donne ton avis.
Son avis à lui. Benzema est meilleur que ces trois.
Une chose, ce sont les socios. Une chose, ce sont les gens du football. Et ce qu'il va laisser dans l'histoire du Real Madrid.
Toi, tu penses que oui.
Il n'est pas. Attends. Moi, parce que je connais un peu le football et que je parle aux gens du football, oui, il va laisser une trace indélébile parce qu'il a déjà gagné quelques Ligue des Champions.
Plus ensuite, que ces trois-là.
Il est septième. Bien sûr que non. Il est septième meilleur buteur de l'histoire du Real. Derrière Raoul, derrière Hugo Sanchez. Mais simplement, quand on dit que Benzema n'est pas un vrai buteur, il suffit simplement de voir le ratio, le nombre de buts marqués par minute disputée. Eh ben, simplement, Benzema marque en gros 0,54 buts par match, alors que Raoul en est à 0,49.
Allez, bifurcation. Bifurcazione.
Donc, Higuain, je trouve qu'il a un profil de joueur maudit.
Oui, on reviendra en fait, t'inquiète.
Oui, c'est il a un profil de joueur maudit.
C'est vrai,
mais non, il est pas assez bon, c'est tout.
Non, mais
c'est un grand joueur, mais c'est pas des
stars. Non,
c'est
pas un joueur, c'est pas un grand joueur.
Non, mais c'est vrai que c'est pas un cador.
Moi, je me suis dit que
c'est pas un cador, mais c'est un bon joueur.
C'est un excellent attaquant.
Mais c'est pas un cador, Simonet.
Oui, mais non, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Arrêtez, deux secondes. C'est un mec qui a fait une finale de Coupe du Monde.
Tu viens de le dire, il y a deux secondes.
Pas rien.
Il a fait une finale. Il a loupé.
Exactement.
C'est un mec qui, non, mais
il a fait une finale de Ligue des Champions.
Il a loupé.
Il a un profil de joueur maudit.
C'est vrai.
C'est pas la malédiction, Daniel. C'est pas la malédiction. C'est simplement qu'il y a des joueurs qui ont le sang-froid pour les grands moments et d'autres qui n'ont pas le sang-froid pour les grands moments.
Ça appartient aussi à une forme.
C'est une qualité qu'il faut avoir pour ces genres de matchs.
Mais toi, tu rends la chose romantique. Mais c'est vrai que peut-être que mentalement, il est pas fait pour les gros matchs comme ça.
Il aurait pas pu faire grand chose en
s'il pète un câble encore hier.
Ok, on va faire autre chose. Roberto Baggio est un joueur maudit et pourtant il a gagné des choses.
Ouais.
Voilà. Du coup, il a gagné. Arrêtez un petit peu d'être binaire avec vos résultats, avec vos rangées. Ça rentre pas.
Ouais, mais non. Excuse-moi, mais Roberto Baggio, excuse-moi. Moi, je trouve insultant pour Roberto Baggio. Toi, l'Italien, tu oses comparer Baggio à Higuain.
Non, je parle de profil.
Oui,
justement.
Mais c'est vous qui avez parlé des deux finales.
Je parle de.
S'il passe au travers lors de ses grands matchs. C'est qu'il lui manque quelque chose aussi, peut-être. Alors, c'est pas juste le.
Alors Baggio, qui est ballon d'or, qui emmène l'équipe en finale et lui tout seul, et qui rate un péno important, et pourtant il y en a eu un autre de raté avant, il a un profil un peu.
Daniel,
maudit. Et est-ce que je peux te poser une question? Parce qu'en lui, il y avait, je sais pas, quelque chose de noir.
Est-ce que je peux te poser une question?
Il y a des mecs comme ça, mais
peut-être que les deux joueurs sont des joueurs maudits, mais il y en a un qui a eu un ballon d'or.
Oui, bien sûr.
Et un qui l'a pas eu, c'était une question de niveau, tout simplement aussi. Non, mais
c'est toi qui les compares.
C'est une question de.
J'adore. C'est lui qui le compare à Baggio.
Voilà. Non, mais je suis d'accord avec Daniel.
Ah,
je suis
au niveau aussi quand même du niveau.
Ça y est. Tu connais le niveau. Dans ces cas-là, le niveau, c'est de mettre un péno.
Oui, mais attends.
Mais non.
Ça n'a rien à voir. Et tu me parles de Baggio. Pour moi, Baggio, c'est un joueur largement supérieur, même si tu es pas le même poste exactement, etc. C'est un joueur largement supérieur.
Parcours sont parallèles, mais sur deux étages différents. Voilà. Ça, c'est pas les mêmes époques.
Ouais, donc oui, effectivement, ça sert à rien de comparer.
Simonet,
c'est toi qui as comparé, Daniel.
Il y a des mecs comme ça.
C'est vrai qu'il a un côté maudit.
Non, mais là où Fred a raison.
Ils gardent pas leur calme dans les grands moments. Oui, ça arrive. Et à côté de ça, des fois, ils font des trucs formidables.
Là où Fred a raison, il y a peut-être un critère qu'on ne mentionne pas suffisamment qui est très important, c'est la trace que tu laisses dans le club et dans l'avenir.
Voilà, et l'histoire, ça dépend pas de tes buts. C'est pour ça que Benzema, par exemple, les chiffres seront pour lui.
Oui,
niveau chiffre extraordinaire.
Mais Fred, je dis qu'il va laisser une trace magnifique aussi,
mais sa personnalité,
fera qu'il laissera une trace largement inférieure à Butragueño,
oui, Raoul, bien entendu. Hugo Sanchez. En déjà, il n'est pas espagnol. Il n'est pas madrilène, donc ça
change
tout. En plus,
donc c'est une affaire...
Bien sûr.
Voilà. Simone, la Roma a tapé la Samp 4-1, on l'a dit. L'Atalanta a tapé l'Inter 4-1 également, on l'a dit. Parlons un peu du Napoli. Alors, Carlo Ancelotti qui est revenu notamment sur le chambrage que Mourinho avait fait aux supporters de la Juve après la victoire en Ligue des Champions. C'est assez rigolo d'ailleurs ce qu'a fait Carlo en conf de presse. Hein.
Oui, il me pose la question. Lui reprend l'image de Mourinho avec l'oreille comme ça.
La main sur l'oreille. Ouais.
Mais la réponse est très intelligente. Et c'est pas seulement Carlo Ancelotti qui l'a dit, mais Mancini va dans la même direction, Spalletti... il a parlé un peu d'un souci qu'il y a en Italie en disant il y a beaucoup de supporters qui viennent au stade pas pour supporter leurs équipes mais pour insulter l'adversaire, qu'il soit un joueur, qu'il soit une entraîneur.
Oui, ça, c'est
et on sait très bien.
Il a dit que son geste était compréhensible, Carlo Ancelotti.
Oui, mais Carlo Ancelotti, quand il est allé avec Naples, il s'est fait insulter 90 minutes. Il y a la chanson des supporters de la Juve, un porc ne peut pas entraîner, dédié à Carlo Ancelotti. Et quand il a reçu ça pour 90 minutes, il a dit moi, je vais à la maison, je vais me consoler en regardant les trophées de la Ligue des Champions de 2003 quand il gagne en finale face à la Juve avec Milan. Mais
c'est une chouette réponse.
Une chouette réponse à une attitude qu'il y a souvent dans certains stades. Le stade de la Juventus n'est pas meilleur des autres. Parfois,
il est pire. Au niveau de la connerie, il a dépassé souvent les limites.
Même, il était tellement excité de n'avoir pas de barrière, d'être proche des joueurs qu'un supporter avait tapé un joueur du Bologna sur la tête pendant un corner.
Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des scooters dans les tribunes qui étaient balancés.
Saint-Siro,
c'est pas pareil.
La Juve,
il a quand même parlé d'autres supporters.
Les supporters de la Juve ont une radicalité qui est assez extraordinaire dans l'Europe du foot. C'est quand même le club, les supporters ont réussi à siffler la veuve de Gaetano Scherrer.
Ouais.
Ça, c'est pour moi, ça reste un truc complètement de dingue. Parce que il y a une particularité aux supporters italiens, c'est qu'ils se pensent largement plus importants que le club.
Il y avait
une
phrase qui était
parce
horrible.
Que ceux de Milan avaient sifflé Maldini aussi.
Oui, là, c'était.
Avaient sifflé Paolo Maldini
son
aussi.
Dernier match.
Ouais. Simone, il cadoro il bidone del weekendo.
Je vais très simple. Je commence par les bidons. Parce que c'est la dernière fois que j'aimais les dire.
Me dis pas que c'est Ventura encore.
Je l'ai dit, mais je l'ai dit plus jamais.
Le mec, c'est Ventura.
Je le promets. C'est Ventura.
Encore?
Non. T'as pas le droit de recycler.
Non, mais attends,
si le mec est bidon pour le week-end.
Ah non, mais là, tu tires sur l'ambulance. C'est même
non,
pas l'ambulance.
Non, c'est lui qui tire sur l'ambulance. C'est lui qui tire sur l'ambulance. Parce qu'il fait les premières points de son aventure après 4 matchs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne.
C'est drôle, alors.
Il prend Kivo.
Il prend Kivo, il fait 4 matchs. C'est un calendrier pas impossible. Quand même, il est à Atalanta, Sassuolo, Bologne à domicile, déplacement à Cagliari. Il fait qu'un petit point. Là arrivent Naples et Lazio. Il se rend compte que non, ça fonctionne pas, j'ai démission.
Il est dans la merde.
Je démissionne. Il va dans les vestiaires, il dit aux joueurs, il dit, écoutez,
je démissionne.
C'est bon. Non, les gars, on n'a pas le droit. On a dit on se foutait de la gueule de Jardine, il ne faut pas se foutre de la gueule de Simone.
Laisse-le continuer.
C'est mignon.
Quelqu'un peut lui dire, il ne dit pas comme ça, bordel.
Simone, c'est mignon, je démissionne, on dit.
Je démissionne.
Voilà,
je démissionne.
Voilà, oui. Corrige pas, on se fout de ta gueule, c'est pas bien.
Une
c'est
démission, bien. Le nom.
On se fout de ta gueule, mais on te corrige quand même. Voilà. Le cador du week-end, il cadre.
Je n'ai mis deux, mais ils sont sur la même ligne. Sont Gasperini, entraîneur de l'Atalanta, et Joseph Iličić, les Slovènes, qui depuis qu'il est revenu après une maladie qu'il a tenu éloigné des terrains, il a même pensé d'arrêter sa carrière. Il fait voler l'Atalanta, 4 victoires sur 4, la dernière face à l'Inter. C'est pas seulement une victoire, c'est une match maîtrisé de A à Z, 90 minutes, a giflé vraiment l'Inter qui était très fatigué après Barcelone et Spalletti n'avait pas fait de bons changements. Mais on est en train de retrouver l'Atalanta des années passées qui faisait des belles choses en Serie A et en Ligue Europa. Et on est sur la même lancée. On va retrouver une Atalanta sûrement protagoniste de cette Serie A et peut-être européenne à la fin de la saison. Et il y a un homme qui a perdu des joueurs importants, parti au Milan, à la Juve, à l'Inter, qui est Gasperini, qui continue à trouver et à faire grandir des jeunes et avec des résultats derrière qui sont fantastiques.
Grazie mille, Simone. Dans quelques instants, l'Espagne avec Fred Hermel, bien entendu. On continue de dérouler, de faire ce tour d'Europe. Julien Laurence va nous rejoindre dans 5 minutes également. On filera en Angleterre. Ils sont passés des choses très sympas également en Angleterre ce week-end, notamment le derby de Manchester. À tout de suite. En compagnie de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo et de nos drôles de dames, Simone Rovera, David Lortolari et Fred Hermel sont là. Julien Laurence va arriver, à moins qu'il soit déjà là. Il est là ou pas? Pas encore. Voilà, merci Arthur Robert, il sera là dans quelques instants. Espagne Ringolo.
España, Ringolo. Por favor.
Ringel. Tout en sobriété, bien entendu. Tiens, petite info, ça vient de tomber là il y a quelques secondes. Nouveau coach au Celta Vigo, Monfredo, et on le connaît bien en Ligue 1. Enfin, pas beaucoup du reste, parce qu'il s'est vite fait virer. T'as vu, non, Miguel Cardozo?
Ils ont viré El Turco Mohamed ce soir là après
ils
la
ont pris
défaite.
Le portugais quand même, Miguel, alors.
Ouais, bon. Un portugais en Galice, c'est assez classique quand même, hein. C'est culturellement très
alors,
proche.
Tu sais quoi, on se faisait la réflexion là pendant la coupure là. Il n'y a pas eu tant d'entraîneurs portugais que ça dans l'histoire de la Liga.
De la Liga ou de la Liga?
La Liga, Liga, Liga.
De la Liga? Bah, peut-être pas tant que ça finalement. Monde, il y a eu beaucoup de joueurs.
Oui, ça oui.
Beaucoup de joueurs, notamment grâce à Monsieur Mendes.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est vrai que George des entraîneurs, si on bien sûr Mourinho, bien sûr Nuno, Espírito Santo.
Voilà. Mais moi, je te dis, depuis tout à l'heure, j'étais en train de... Ouais, si, Arthur Georges, Tenerife.
Arthur Georges! Oui, à Tenerife, bien sûr.
Dans les 90.
Ouais, mais c'est vrai que pas tant que ça, pas tant que ça.
Il n'y a pas eu tant que ça. Bref, 12e journée de Liga.
Comme vous l'avez dit, j'ai l'impression de dire, machin, Real Madrid!
Oui, c'est ça.
Barça, oh! Non, c'est Tenerife, on s'en cague.
Mmh. Oh, ben, on s'en cague. À l'époque, c'était un bon club, hein.
Ouais. Ah, bah,
il avait ramené Domingos dans ses valises, j'en souviens encore.
Tenerife a été, et ça reste toujours l'un des premiers billets d'Espagne, c'est Tenerife Las Palmas.
J'adore Tenerife.
Ouais, tout le monde aime bien.
Tout le monde aime bien Tenerife.
Retafe. Valence s'est imposé 1-0 face à Retafe. Valence qui réapprend à gagner. L'Atlético a battu l'Atlético Bilbao 3-2. Remontada, d'ailleurs. Magnifique match entre le Barça et le Betis. Les Sévillans s'imposent 4-3 au Camp Nou. Séville bat l'Espagnol 2-1. Le Celta s'est incliné face au Real Madrid 4-2. Le Barça est premier avec un point d'avance sur Séville. L'Atlético et Alaves sont à égalité avec Séville d'ailleurs. Cinquième, l'Espagnol à 3 points de la tête et le Real est à 4 points seulement du Barça et de la première place de la Ligue.
Ça se resserre, c'est bon.
Ouais. Ça se resserre, c'est très bon, mais de toute façon, on aura l'occasion peut-être un soir de faire un after spécial sur comment les politiques des dirigeants des championnats ont une influence directe sur la compétitivité des 10 championnats. Parce qu'il n'y a pas de hasard là ça. Mais bon, moi mon avis tranché.
Il concerne Dembélé.
Voilà, je vais le faire sur Ousmane Dembélé et je suis très content d'avoir Pierre parce que j'ai vraiment besoin de son souvenir et de son expérience dans un vestiaire. Franchement, ça craint pour Dembélé là, hein. Il est en train de gâcher sa carrière. Bon, on va pas revenir sur toutes ces histoires de retard, etc. Plus, bon, jeudi, injoignable, soi-disant, il est malade. Pendant une heure et demie, les dirigeants du Barça ne savent pas où il est. Il prend le téléphone après en disant, oui, j'étais en train de le charger. Ils envoient un médecin et se trouve finalement que, bon, la maladie était pas si énorme que ça. Bref, indiscipline totale et il est écarté du groupe. C'est-à-dire que les choses, il faut appeler les choses par leur nom. Ousmane Dembélé, le deuxième plus gros transfert de l'histoire du Barça, au Barça depuis 1 an et 4 mois, a été écarté du groupe pour un match important à cause de son comportement. Voilà.
Il n'avait pas réellement une gastro?
Non mais il était bon.
Ah non, je le demande parce que moi je sais pas, je veux être sûr.
Mais même si t'es une gastro, t'appelles le club en disant je peux pas venir à l'entraînement.
Oui.
Il a été injoignable une heure et demie. Alors sache Fredo que son agent Moussa Sissoko s'est exprimé dans Breaking Sport cet après-midi.
Oui, mais il s'appelle Moussa Sissoko.
Non, mais il s'appelle Moussa Sissoko,
c'est l'agent. Je pensais l'agent de Moussa Sissoko.
Non, l'agent de Ousmane Dembélé.
Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, c'est l'agent de Dembélé.
C'est
ça. Et il y avait aussi Moussa Sissoko, le joueur, dans Breaking Sport.
Ouais, on a eu les
mais il y avait donc l'agent de Ousmane Dembélé.
C'est pour ça. Moussa Sissoko. D'où ma confusion.
C'est voilà. Dupont et Dupont, tu vois.
Ouais, il y a un peu. Bref. Et en tout cas, toujours est-il que l'agent.
La réaction de son agent me fait dire que.
Bah, il dit qu'en gros, il dit, je comprends pas.
C'est pas bon, c'est pas une bonne réaction.
Il peut pas dire autre chose.
Il peut dire mon joueur a fait une faute ou mon joueur a pas exactement.
On va l'écouter
moi,
derrière.
La réaction est très mauvaise.
Vas-y.
Et elle traduit le malaise.
Escuchamos Moussa Sissoko.
Je ne comprends pas trop toutes les critiques aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on puisse comparer les performances d'un joueur à Barcelone avec un autre club, avec tout le respect que je peux avoir pour les autres clubs. Mais aujourd'hui, je comprends pas trop toutes ces polémiques. Après, bien entendu, on est conscient qu'il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr. Il a 20 ans, c'est normal. Je pense que c'est le cas de tous les jeunes de 20 ans. Mais aujourd'hui, voilà, je comprends pas trop tout ce qui est dit autour de lui. Ousmane est très tranquille, il continue à bien bosser à Barcelone. Et voilà.
Voilà, l'explication donc de Sissoko. Vas-y, mon Fredo.
Alors, mon avis tranché, c'est très clair.
Il dit quand même qu'il y a des choses à améliorer, j'avais pas entendu cette partie-là. Donc bon, ça, c'est un peu mieux déjà que ce que j'avais entendu.
Bon, mon avis tranché va être très clair à ce niveau-là. Aujourd'hui, l'un des joueurs les plus talentueux, des jeunes les plus talentueux de l'équipe de France est en danger, sa carrière est en danger. Quand vous entendez un entraîneur aussi patient, aussi intelligent que Valverde dire que pour le bien du club, il était obligé d'écarter ce gamin du groupe, quand vous entendez Piqué qui reconnaît, mais même pas à demi-mot, hier qu'il y a un problème en disant on a tous été jeunes, mais il y a un moment où Ousmane doit comprendre qu'on est footballeur 24 heures sur 24. Et alors qu'il en a fait dans sa vie.
C'est vrai que Piqué. Lui fait du foot 24 heures sur 24.
Non, mais oui, mais bon, Piqué, mais quand Dembélé aura la carrière,
c'est
aura la carrière de Piqué,
non,
on en parlera.
Pas le même, bien sûr, mais non, bon,
voilà. Ça n'a rien à voir, Pierre, excuse-moi.
Ça n'a rien à voir.
Laissez-moi terminer mon avis tranché, s'il vous plaît.
L'autre qui l'a devant, d'accord.
C'est un mur.
Laissez parler Fredo, les mecs, s'il vous plaît.
Voilà. Et simplement, moi, ce que je dis aujourd'hui, et c'est un avis tranché très clair, je pense que Didier Deschamps et les Bleus doivent aider Dembélé.
Bah, déjà, les déclats de Deschamps aujourd'hui, t'as entendu, hein.
Ben oui, mais non, mais là, je pense qu'il faut qu'il leur parle. Là, maintenant, ils vont être 10 jours ensemble. Je pense que ça va venir de là. C'est quelqu'un, parce que moi, ce qu'on me dit au Barça, c'est que c'est pas un mauvais mec, mais qu'il est d'une immaturité, mais
il lui manque les codes.
Pathétique, quoi.
Il lui manque les codes.
Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui.
Ça a été trop vite pour lui. Ça a été trop vite pour lui. Il a même pas eu l'étape intermédiaire du un peu plus gros club français ou d'un club européen. Il est arrivé au Barça, quoi. Il faut tout faire parfaitement quand t'es là-bas.
Question de faire parfaitement, c'est d'arriver à l'heure à l'entraînement.
Oui, non, mais ça lui arrive pas tous les jours. Rassure-moi, ou alors on le sait pas, mais ça lui arrive pas tous les jours d'arriver en retard à l'entraînement.
Ben, beaucoup, hein.
Ah bah alors ça moi je le sais pas. Si tu me dis ça avec certitude et qu'effectivement il arrive deux fois par semaine en retard, là c'est que
en
effectivement Espagne, il manque quelque chose.
En Espagne, quand t'arrives une fois en retard, tu mets un
dans
billet dans une cagnotte et puis comme chez vous, puis comme en France, monde, hein. Et puis après on fait un dîner avec tout le monde. Mm-hmm. Sauf que là, c'est les retards de Dembélé, c'est plus un objet de plaisanterie. Aujourd'hui, c'est un problème grave du Barça. Donc moi je pense sincèrement et que ce gamin a besoin d'être aidé et que Deschamps et les joueurs d'équipe de France, peut-être Griezmann, peut-être voilà des gens plus âgés. On parle de Rami qui est très important, etc. Dans le groupe, peut-être que Rami, etc. Doivent lui parler, essayer de lui faire comprendre qu'il est en train de gâcher sa carrière.
Le problème, Fred, c'est que je pense pas malheureusement que des gens qui ne soient pas au quotidien avec lui puissent l'aider là-dessus. Je t'explique pourquoi. Alors oui, ils vont peut-être pouvoir lui dire arrête tes bêtises, essaye de rentrer dans le rang, voilà professionnalise-toi, etc. Mais ils sont pas au quotidien avec lui. Et ce genre de mec, je pense qu'il lui manque grandement beaucoup de code, et il faut une personne qui lui explique au quotidien ce qu'il faut faire, tout simplement, pendant un certain nombre de temps. Et après, il faut qu'il le comprenne, parce qu'il y en a qui ne le comprennent jamais, hein, ça arrive aussi. Hein.
Mais, et voilà, et, moi, la et question, moi la question jamais, que je vais te poser.
Là, tu fais pas la carrière que tu aurais dû faire.
Non, mais là, la question, Pierre, c'est que moi, l'excuse de l'âge, ça marche pas.
Parce que
tout a été très vite. Il y a plein de gamins de 20 ans qui font comme il faut.
Mais la majorité
fait d'ailleurs.
Mais regarde l'anglais, par exemple. Qui est un exemple énorme. Enfin, tu vois, il est arrivé très jeune à Valence, à Séville. Voilà, quand tu vois même le petit Brésilien, la Vinicius.
Ouais, bien sûr, tout le monde n'est pas constitué pareil. Bien sûr. Hein. Voilà, il y en a qui le comprennent très vite et qui n'ont même pas besoin qu'on leur explique. Il y en a d'autres. Malheureusement, il faut leur expliquer et ils comprennent avec le temps et l'insistance. Et puis t'en as même d'autres, tu leur expliques 150 fois, ils veulent jamais comprendre. Et cela, ça fait pas la carrière que ça doit faire. Tout simplement. C'est irrémédiable.
Après, pour déplacer le problème, parce que là-dessus, je suis d'accord avec Fred. Je dirais un bémol par rapport à ta phrase. Il met en danger sa carrière. Je dirais en Liga. Parce que déjà à la base, je suis pas convaincu que son profil soit fait pour la Liga, alors qu'il était beaucoup plus fait, je pense, pour la Bundesliga et dans une moindre mesure pour l'Angleterre. Oui. Je ne crois pas qu'il ait le profil Liga.
C'est un profil qui peut s'imposer un peu partout, moi, je trouve.
Je ne crois pas que ce soit un homme de 30
comme ça.
Je crois pas que ce soit un homme de 30 derniers mètres dans une équipe comme le Barça qui emmène le ballon très haut comme ça.
Peut-être pas un profil exactement qui correspond au Barça, mais pas forcément à la Liga.
C'est ce que je voulais dire.
Ça joue forcément à la Liga.
Bon, malgré tout.
Alors, à la décharge de Dembélé, on va dire aussi que le Barça avait besoin de faire un coup et que le seul qui était achetable à ce moment-là pour faire un coup, c'était Dembélé. Voilà. Après le départ.
Sur le marché, c'est aussi les aléas du marché, parfois, qui te poussent à faire ce genre de choses-là.
Voilà.
Donc oui, effectivement, précisément, Barça, t'as raison, Pierre, de corriger ça. Après, beaucoup d'équipes en Espagne ont un peu ce profil de jeu-là. Il est plus facile de l'envisager dans un club en Angleterre ou encore mieux en Allemagne, là où il était. Voilà, donc peut-être que cette étape Barça sera une étape dans sa carrière et qu'il grandira ailleurs, qu'il aura acquis de la maturité ailleurs.
Ouais, mais la mauvaise réputation d'Allemagne, mais son départ de l'Allemagne.
Ouais, non, ça après, ça peut être, ça peut être
ça
compliqué.
Ça fait un CV sur le CV, c'est lourd, hein.
Ouais, ouais, ça après, la faculté à changer, et assez vite maintenant.
Ça peut le conduire à une étape intermédiaire dans un club qui a beaucoup d'argent, mais qui est un club moyen en Angleterre. Parce que les clubs anglais moyens ont de l'argent pour se le payer éventuellement.
Bien sûr.
Et puis ils seraient plus concurrencés, ils se mettraient dans un confort un peu trop grand et il arrêterait sa progression. Et oui, dans ce cas-là, il serait pas à la hauteur de ce qu'on a placé en
Fredo,
ligue comme
attente. Faut qu'on enchaîne, mon Fredo. Alors t'as pas de bidon ce week-end, mais en revanche t'as plusieurs cadeaux, toi.
Voilà, mais non, mais j'ai pas de bidon. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu un week-end tellement merveilleux que ce serait indécent de choisir un bidon.
Il faut quand même nous dire que Solari est officiellement l'entraîneur du RR.
Voilà, 4 victoires en 4 matchs pour Solari.
Quand même.
Voilà, Solari, alors...
Voilà, moi j'aimerais, si c'est possible, une explication un peu rationnelle. Comment l'équipe qui met pas un pied devant l'autre prend Solari et d'un coup, c'est quoi ? Déclic psychologique, Solari qui a les mots ? Parce que là, on a l'impression de revoir ce qui s'est passé avec
Benitez et Zidane.
Après, les gars, ils ont pas non plus le calendrier le plus dingue non plus.
Ils avançaient pas, même contre des tocards.
Mais c'est ça, non. Mais alors, ce qui se passe, il y a plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que les footballeurs, ce sont des égoïstes. En général, tous.
Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi.
Tous, et que à partir du moment où c'était facile, il y avait un bouc émissaire facile qui était Lopetegui. Sauf que le public du Bernabéu, à un moment, il se retourne. Ah bah, on a viré l'entraîneur qui marchait pas. Si ça marche pas avec celui-là, c'est pas forcément de la faute de l'entraîneur, c'est de la faute des joueurs. Ouais. Donc ils se sont un peu sortis les doigts, comme on dit, d'une manière très vulgaire. Et il y a une autre attitude sur le terrain. Après, il y a aussi un phénomène de chance, mais c'est hallucinant parce que il y a des buts qui rentraient pas. Il y a eu 16 montants sous l'époque Solari. Là, les montants ils sont en faveur du Real Madrid sous l'époque Lopetegui. Là, la chance elle est de ce côté-là. Bon, après il faut reconnaître aussi que Solari, dans sa manière de gérer, je me demande finalement s'il y avait pas eu une erreur de casting dans le sens où Lopetegui a essayé de reproduire avec le Real ce qu'il faisait avec l'Espagne. Sauf que le Real a un jeu beaucoup plus direct, a pas des joueurs pour avoir une position de balle absolue, etc. Et donc à ce niveau-là, peut-être que il n'a pas été assez souple dans l'évolution de son système. Voilà.
Voilà. Faut qu'on enchaîne. Alors t'avais comme cador qui du coup très très vite, hein, Fred.
On est quand même obligé de parler d'un but extraordinaire du boiteux. Alors en Espagne, quand un joueur se blesse, qui a plus de changement et qu'il est obligé de rester sur la pelouse, en général, même si c'est un défenseur, on le met en pointe en disant, bah écoute, s'il y a un ballon qui traîne, t'essaies de taper dedans, hein. Et s'il marque le but, non mais on appelle ça el gol, le but du boiteux. Et ben à l'heure de jeu, il y a Godin face à l'Athletic Bilbao. Bien entendu, j'étais au Wanda Metropolitano. Godin qui se blesse. Les trois changements avaient déjà été effectués par Simeone. Il avait une déchirure au niveau du mollet, donc il se met devant. Et ça faisait, et 91e minute, Godin, le corro, le boiteux, il marque le but de la victoire. Donc extraordinaire, il a souffert, il a sûrement agrandi. Il a sûrement agrandi sa déchirure musculaire, mais voilà, c'est aussi ça, le sacrifice d'un joueur au nom d'une équipe. Et je veux dire qu'il y avait une ambiance extraordinaire, à tel point que Simeone a dit, bon, ça fait qu'un an et demi qu'ils sont là au Wanda, que c'était le moment le plus émouvant qu'il avait vécu au Wanda Metropolitano.
Okay. Julien Laurence arrive dans quelques instants, et Fredo, je suis quand même déçu, parce que je me demandais, là, les entraîneurs gâches qu'il y a eu en Liga espagnole, il y en a un que t'as oublié qui a entraîné le Real quand même.
Bah, Mourinho.
Non, il y en a un autre. Qui était à la Coupe du Monde avec une sélection.
Carlos Queiroz.
Mais
il y avait eu Domingos aussi il n'y a pas si longtemps. Il y a eu Gesualdo également à Malaga. Il y a eu Pacheco à Mallorca il y a quelques années aussi. Bref.
Alors simplement, si vous permettez une seconde, je vais dire un mot.
Il est gentil, lui.
Un mot.
Bah, je me corrige. Je me complexe.
Un mot. Le but du week-end en Liga, il a été marqué par Benzema, tout le monde l'a vu.
Le contrôle de...
C'est un truc de
magnifique.
Malade, voilà.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
Merci mon Fredo.
Magnifique,
Julien Laurence,
Fredo.
Nous
magnifique.
Attend, on va Bravo. Parler de la Première Ligue dans quelques instants et notamment du derby de Manchester avec Julien, à tout de suite. Accompagné de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot et des drôles de dames, Simone Rovera, Fred Hermel, David Lortolari et Julien Laurence nous a rejoint. Salut Julien.
Salut à tous.
Ça va Julien?
Salut Julien.
Super.
Salut Julien.
Avant de dérouler sur la Première Salut, Ligue, Julien, juste un petit son. Il y a Timothée Mémon qui vient de choper Ferland Mendy sur le quai de la gare. Ferland Mendy appelant l'équipe de France pour la première fois, qui remplace Benjamin Mendy, joueur de Manchester City. Première réaction à cette convocation à l'équipe de France du défenseur de l'Olympique Lyonnais.
Ça fait plaisir. Je suis très content et je vois tout ce que je fais depuis le début de la saison, ça se passe bien dans mon club et c'est comme si c'était un travail qui a été satisfait. Et j'espère, bah là, je vais voir comment ça va se passer quand je vais arriver. Et demain, quand je vais arriver, quand je vais voir tout le monde.
Forcément, tu comptes un peu sur les quelques Lyonnais ou anciens Lyonnais pour aider à l'intégration?
Ouais, je compte sur eux. Après, il y en a qui jouent avec moi aussi. Et je connais des joueurs avant avec qui je jouais. J'en connais beaucoup quand même.
Et voilà, là, sa première réaction. Donc, à Ferland Mendy, il a vraiment chopé à la sortie du train, Timothée. Ah oui, l'a vu sur les images sur RMC Sport News.
Bah, qui venait de.
En fait, il venait de Lyon.
Ah, d'accord.
Voilà.
Le train, donc, TGV, Gare de Lyon s'appelle.
C'est aussi un train.
Bah, c'est rien, c'est secret.
Mais on garde un peu d'intimité.
Pourquoi c'est secret? Le mec, il est dans une gare, il y a des trains. Si tu me fais chier. Bref, 12e journée de Première Ligue. Palace s'est incliné à domicile 1-0 face à Tottenham. Liverpool a battu Fulham 2-0, 0-0 entre Chelsea et Everton. City a battu United 3-1. Arsenal qui a fait match nul 1 partout face à Wolverhampton. Et alors, Julien? Faut que tu nous parles de ce derby. Faut que tu nous parles de cette victoire 3-1 de City face à United. United qui est à 12 points de Manchester City et de la première place, donc. Mais surtout de ce but. Alors toi, t'as été bluffé comme nous tous par ce but de Gundogan, le but
troisième.
Du troisième.
Ah ouais. Oh Dieu, que c'est beau.
Ouais, c'est beau, hein. Comme tu dis, effectivement, c'était une œuvre d'art. Ce but, 44 passes. Environ 2 minutes, je crois, à partir du moment où on compte la première passe jusqu'au. 1,55 exactement, un peu moins de 2 minutes entre cette première passe et le but de Gundogan. Après cette phase de jeu simplement exceptionnelle où chaque joueur a fait la passe au bon moment, au joueur qu'il fallait, dans le bon timing, et après les espaces comme il fallait, etc. Ça a été vraiment d'une pure beauté. C'est pas la première fois, 44 passes c'est la première fois, mais sous Guardiola on a été habitué à ce genre de football de la part de City, mais de le faire dans le derby comme ça, à la fin du match, avec un but pareil, c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Et puis ça récompense une performance simplement magnifique de cette équipe de City qui avait une classe d'écart avec Manchester United et qui a encore montré les limites de cette équipe de Manchester United et de
Julien,
ça joue vite aussi.
Julien, évidemment, on est d'accord. Moi, ce que je me demande, ce que je pensais en voyant ce match, c'est comment, alors je sais pas où sont, ce que font, est-ce qu'ils suivent quotidiennement ou de façon hebdomadaire ce qui se passe dans leur club, mais comment les propriétaires d'un club comme Manchester United peuvent supporter de se faire balader par le club d'en face qu'ils ont dominé pendant des décennies? Comment ils peuvent supporter que leur équipe propose aussi peu de jeux?
Est-ce que ces propriétaires-là ont une grande passion pour l'histoire du derby de Manchester?
C'est pour ça que je pose la question à Julien. Ouais. Je dis, qu'est-ce qu'ils font?
Pas sûr.
Est-ce que Alex Ferguson vient encore? Est-ce qu'il a encore son mot à dire?
Il était au match, ouais, dimanche.
Est-ce qu'il peut supporter ça, lui, ou ne pas tomber à la renverse? Évidemment que moi, quand je vois ça, je suis heureux. Bah, parce que, pour que ce soit Mourinho ou un autre, je m'en fous, mais quand un entraîneur est à ce point pauvre dans son idée de football, quand il prend une claque, c'est pour moi un bonheur absolu. Surtout si c'est l'entraîneur d'une équipe qui a autant de moyens et autant de bons joueurs sous la main. Mon plaisir est encore plus immense. Et oui, évidemment, que je prends un bonheur dingue à voir ça et que pour moi, c'est une humiliation réjouissante pour Mourinho. Qu'il prenne une claque pareille, c'est, pour moi, c'est le football, quoi. C'est le football. Tu peux pas, à la tête de Manchester, proposer aussi peu que ça. C'est honteux. Et en plus, j'ai l'impression que le pire que tout, c'est qu'il le fait exprès de proposer aussi peu. Parce qu'il s'est mis dans la tête.
Comment il peut faire
de vouloir.
Non.
Avancer en étant pauvre.
Non,
en
Julien, c'est surtout que là, par rapport aux 3-4 derniers. Excuse-moi, Julien, mais il y a pas d'arbre qui cache la forêt. C'est ce qui se passe depuis un petit moment.
On a vu à quel point Pogba est important aussi. Julien.
Alors non, juste pour répondre à la question de Daniel, les Glazers, tant que l'argent tombe, il n'y a pas de souci.
Oui, ouais, le business,
tu vois, c'est ça. C'est le business qui compte avant tout, c'est le business. Le jour où le business tournera moins bien, là, peut-être qu'ils s'inquiéteront des mauvais résultats, des mauvaises performances, etc. Mais pour l'instant, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas gagné le titre, puisque le dernier, c'est 2013 avec la dernière année de Ferguson.
Ouais.
Et.
Oui, ils vont pas gagner non plus cette année, donc bon, voilà.
Non, mais le business marche mieux qu'il y a 5 ans.
C'est vrai.
Donc, si tu veux, ils doivent se dire qu'ils font les choses plutôt bien à ce niveau-là. Pour
mais
eux,
ça,
en tout
ce
cas.
Que tu es en train de dire là, c'est que c'est une composante du football moderne qu'on évoque, ma foi, assez peu. On en a parlé à l'époque d'Arsenal aussi. Le business était très bon et peu importe. Et tant que. La position de Wenger ne se discutait pas. Le business était excellent. Le business à Manchester United est excellent. Peu importe qu'il soit 8e, que leur jeu soit minable et qu'il se fasse balader par le voisin d'en face. Le propriétaire ne regarde pas ça. Ça, c'est une nouveauté dans le football moderne, ça.
C'est vrai. Mais c'est là aussi où ça te montre que le problème ne vient pas que de Mourinho, mais aussi à un étage beaucoup plus important au club, et que le problème de Manchester United aujourd'hui n'est pas simplement ce qui se passe sur le terrain, mais aussi beaucoup en dehors, que Ed Woodward, qui est donc le PDG de ce club, est clairement clairement pas l'homme de la situation au niveau du recrutement, au niveau de comment tu manages cette équipe.
Ouais, les joueurs
club,
ils sont là, tu peux faire mieux avec ces joueurs-là quand même. Et oh.
Ah mais ça c'est sûr, ça c'est sûr.
Quand même.
Mais il y a quand même eu des erreurs de recrutement énormes. Quand tu dépenses 20 millions d'euros sur Diogo Dalot, qui à part Nico Villas, il y a pas beaucoup de monde qui connaissait cet été.
Tu vois, et qu'il a joué deux matchs. Il est pas bon, hein, mais
non, mais moi je le connaissais, mais il y a quand même plein de gens qui. Non, mais tu comprends? Et à un moment, il y a un souci à ce point-là. Bah, après,
pour moi, la catastrophe industrielle, c'est plus non pour Dalot, ce qui est lunaire, c'est qu'il paye 20 millions pour un joueur qui est blessé. En revanche, Alexis Sanchez, c'est une vraie catastrophe industrielle.
Non, mais ça c'est sûr. Par rapport, mais si tu regardes même à Fred, ils achètent Fred 60 millions d'euros. Hier, il se morfond sur le banc de touche. Et pendant ça, là, tu fais jouer. Non, mais.
Guardados, hein.
Allez, 600.
Avec deux verres.
T'aurais pas fait mieux ou pire sur le banc de touche. Tu serais resté sur le banc de touche comme le Fred, comme le Brésilien, quoi. C'est vrai, il y aurait un peu une différence, hein.
Sauf
qu'il a plus. Il a plus de cheveux que toi.
Sur le banc de touche, il aurait fait mieux, Fred.
Il a plus de cheveux que toi aussi.
Il aurait fait sur le banc de touche.
Voilà, c'est ça.
Oh, il est peut-être marrant aussi, hein. Vas-y, Julien.
Mais à la place, tu mets titulaire Fellaini et Matic, et tu sais très bien que la force de cette équipe de City, ça va être le mouvement avec ballon et sans ballon des deux Silva et de Fernandinho. Et contre eux, tu leur mets deux plots, Matic et Fellaini, qui savent à peine courir, qui peuvent pas bouger et qui se sont fait manger dans leur dos, devant eux, sur le côté à droite, par le mouvement de Bernardo et de David Silva.
Oui,
et c'était assez incroyable.
De tous les côtés, oui.
Non, mais tu vois, et pour moi, juste pour finir sur ce que Daniel disait. Bien sûr que Mourinho c'est une honte, et bien sûr que la saison de Manchester United, ils ont joué hier comme une équipe qui est 8ème de Premier League, qui est moins forte que Watford, moins forte que Bournemouth, qui sont devant eux au classement. Mais seulement, il n'y a que Fulham en Premier League cette saison qui concède plus de tirs cadrés. Même Southampton se crée plus d'occasions franches que Manchester United depuis le début de la saison. Ils ont une différence de but négative à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 1977, et c'est pire début de championnat depuis 1990.
C'est fou.
Comment est-ce qu'il est encore en poste dans un club pareil?
Mais parce que alors, je te dis, parce qu'il y a quelques arbres qui ont caché la forêt.
Non,
pendant,
moi tu sais pourquoi
4, 5
matchs. Je rejoins ce que disait.
Mais même pas, Pierrot, c'est pas possible.
Ils sont 8e et il est où l'arbre?
Parce mais oui, quel arbre?
L'arbre, il est contre la Juve, où on dit tout.
Mais c'est un miracle.
Julien, le soir du match de la Juve, tout le monde dit ici, les changements de Mourinho ont fait la différence.
Il y a rien à
dire
ici.
Ici! Ici!
Pas moi,
bien sûr!
C'est une
honte, bien sûr!
Mais quand tu gagnes un match, c'est partout!
Tu dis pareil,
c'était la lutte de tout la presse anglaise,
c'est la Juve!
C'était bien sûr!
C'est la lutte de la
presse anglaise,
c'est la lutte de Timonet! Mais oui, mais c'est pas ça! Mais il y a seulement toi qui t'es pas con, tout le monde est con!
Mais non, toi, parce que toi, tu vois Mourinho séance de branlette intégrale.
Parce que c'était en 2010.
Il y a 8 ans, ils ont gagné avec Mourinho.
J'ai dit que c'est avec la une de la presse anglaise.
Même Fred avec Benzema, il n'en est pas là.
Est-ce que je peux dire une chose?
Et pourtant,
même deux. C'est la une de la presse anglaise. Julien va pas te contredire. Il y a Mourinho et partout à la
presse. Mais je m'en fous, c'est bidon.
C'est la une de la presse italienne.
Mais la presse du Japon, de Chine, de Mars, ils peuvent dire ça. C'est du bidon.
Parce que
c'est du bidon.
Mais donc tout
quand
le monde
tu marques sur un coup franc, tu mets un coup franc et l'autre un coup de pied arrêté avec ballon qui est dévié, je sais pas comment, c'est pas les changements, c'est de la chatasse. Ça cache que dalle, c'est leur pire début de saison depuis ils viennent de te
bien
le dire.
Sûr, bien sûr, mais bon, sur les 3-4 dernières semaines, ça a été ça.
Simone, arrête, tu vois Mourinho, tu te mets de la crème.
Mais moi, je pense que c'est un grand entraîneur.
Non, il voit Mourinho,
Daniel.
Simone, pas toi.
Un peu sur la fin.
C'est moi qui le kiffe. Est-ce qu'on mettrait pas Higuain avec Mourinho?
Un peu sur la fin, la saison dernière, qu'elle disait.
Et il se repasse la finale de 2010 et il se crève de partout, le gars.
Moi, Pierre, pour répondre à ce que tu disais, moi, je vais aller dans le sens de ce que je disais, Julien. Je pense que si Mourinho est en place, c'est parce que justement, au niveau financier, ça leur ferait un trou de 20 millions, les mecs.
Voilà. Bien
c'est
sûr.
Juste ça. C'est les mecs, ça leur coûterait 20 millions.
Bien sûr.
Et les mecs, la machine à oseille, elle continue de tourner. Ils vendent des maillots, le
parce
mec,
que
il
sait faire des contrats.
Ils sont à 20 millions près, justement.
Ah bah demande à Julien, 20 millions c'est quand même.
Non,
bah,
mais... Julien, ils sont à 20 millions.
Ah bah oui, quand plus t'es riche, moins tu gaspilles. J'en sais rien, c'est complètement
ça, c'est vrai. Et au niveau business,
c'est pas quoi ce que tu dis.
Ouais, c'est pas vrai pour.
Ouais, faut pas généraliser. Ouais.
Je pense que ça leur ferait mal, mais le problème.
Oui, vas-y, Julien. Vas-y,
juste pour finir.
Non, ça, c'est fini.
Ah, bah, je peux rien,
je
juste.
Vas-y, Julien.
Non, si je voulais pour rajouter à l'insulte. Après le match, et pour encore continuer à ce qu'on disait tout à l'heure avec Daniel, que Mourinho vienne en conférence de presse après nous dire que si Fellaini avait été à 100%, City aurait eu beaucoup plus de mal, qu'ils ont fait 3 erreurs qui a coûté 3 buts, mais sinon, à part ça, il y a très peu de différence entre les deux équipes. Qu'ils viennent après encore nous. Non, mais ils se foutent de la gueule du monde. début à la fin. C'est pour ça qu'à un moment, je me dis, effectivement, peut-être qu'il fait exprès, en fait. Peut-être qu'il fait exprès, qu'il s'amuse et qu'il dit, bah voilà, j'en ai plus rien à faire, donc.
Mais évidemment qu'il s'en cague.
Alors, sachez, tiens, pour terminer, parce que c'est vraiment fini, Samir Nasri, il est à ça. C'est-à-dire un poil de ma bobard. De signer à West Ham.
Super.
Voilà. Ça va, ça va peut-être se
faire. West Ham, c'est une sorte de maison de retraite. C'est là-bas
aussi. Pour 90 000 euros par semaine.
Ouais, bras, c'est vrai. Ah. On rappelle que Yarmolenko s'est blessé. Hein,
ouais, on n'a pas parlé de Kanté. Kanté à Chelsea, là, on n'a plus de nouvelles. Là. Il paraît que c'est moins bien, que son nouveau positionnement, machin,
stop,
tout ça, Julien.
C'est fini. Merci beaucoup, les
demain,
gars.
Demain, d'ailleurs.
Demain. Merci, Julien Laurence. Merci, David Bertrand.
Merci,
Julien
Robert. Merci, messieurs.
Salut à tous. Daniel Herrero, Arthur Robert. Ciao. Et tous les Quentin, tout ça, tous ceux qui nous ont préparé l'émission, bien entendu. Et on se retrouve demain, bien entendu.